Chapitre 26. Orage. Annoncé par sa respiration essoufflée et par un bruit de pas pressé, M. Panks se précipite dans le petit bureau d'Arthur Clennam. L'enquête est terminée. La lettre est publiée. La faillite de la merveilleuse banque est annoncée. Les autres entreprises modèles du Grand Merdle sont autant de compagnies de paille qui ont pris feu et dont il ne reste que de la fumée. Le vaisseau pirate que l'on avait tant admiré vient de se faire sauter au milieu d'une vaste flotte de navires de toutes dimensions. Sur la surface de la mer, on n'aperçoit que des débris, des coques de bâtiments incendiés, des Saintes-Barbes qui font explosion, des canons qui éclatent d'eux-mêmes et déchirent en morceaux amis et voisins. Des naufragés qui se noient et s'accrochent à des fétus et disparaissent au bout de quelques secondes, des nageurs épuisés, des cadavres flottants, entourés de requins. Que sont devenus l'ordre et l'activité du bureau Doyce et Clennam? Des lettres non décachetées, des papiers en désordre encombrent la table. Au milieu de ces signes de prostration morale et de découragement, l'associé de Daniel Doyce se tient immobile à sa place habituelle, les bras croisés sur son pupitre et la tête appuyée sur ses bras. M. Panks arrive en courant dans la chambre, aperçoit Clennam et s'arrête. L'instant d'après, les bras de Panks sont aussi croisés sur le pupitre et sa tête appuyée aussi sur ses bras. Pendant quelques minutes, ils se tiennent dans cette attitude, désœuvrés et silencieux, séparés par la longueur de la petite table. M. Panks fut le premier à lever la tête et à parler. « C'est moi qui vous y ai décidé, M. Clennam. Je le sais. Traitez-moi comme vous voudrez. Vous ne pourrez pas me dire plus d'injures que je ne m'en dis à moi-même. Vous ne pouvez pas m'en dire plus que je ne le mérite. » « Oh, Panks, Panks, » répliqua Clennam, « ne parlez pas de ce que vous méritez. Et moi donc, qu'est-ce que je n'ai pas mérité ?»« Ah, vous méritiez d'être plus heureux, » répondit Panks. « Moi, » continua Clennam, sans écouter cette réponse, « moi qui ai ruiné mon associé. Panks, Panks, j'ai ruiné Doyce. » Ce vieillard honnête, industrieux, infatigable, qui a travaillé toute sa vie durant, qui a lutté contre tant de déceptions, sans rien perdre de sa bonne et généreuse nature, pour qui j'avais tant de sympathie et que j'aurais voulu servir de toute mon âme, je l'ai ruiné, je l'ai plongé dans la honte et le déshonneur. Ruiné, ruiné. L'angoisse que cette pensée causait à Clennam était si pénible à voir que M. Panks se saisit par les cheveux et, dans son désespoir, se mit à les arracher par poignées. « Faites-moi des reproches, » s'écria-t-il. « Faites-moi des reproches, monsieur, ou je vais me faire moi-même un mauvais parti. Appelez-moi imbécile, canaille. Dites-moi donc, vilain âne, comment as-tu pu faire cela? Tête de baudet, où avais-tu donc l'esprit? Voyons, ne m'épargnez pas, dites-moi des sottises. » Et tout en parlant ainsi, Panks se tirait sans ménagement et sans pitié sa chevelure touffue. « Si vous aviez résisté à cette fatale manie, Panks, » dit Arthur d'un ton où il y avait plus de pitié que de reproche, « il est sûr que cela aurait beaucoup mieux valu pour vous et pour moi. »« Encore, monsieur, » s'écria Panks, grinçant les dents de remords. « Encore. » Si vous n'aviez pas fait ces maudits calculs dont vous m'avez démontré l'exactitude avec une évidence si abominable, continua Clennam en gémissant, cela aurait mieux valu pour vous, Panks, et pour moi. Encore, monsieur, répéta Panks, cessant de s'arracher les cheveux. Encore, encore. Cependant, Arthur, qui n'en avait tant dit que pour calmer le coupable repentant, le voyant en effet plus tranquille, s'arrêta pour lui serrer la main en ajoutant: « Hélas, j'étais un aveugle qui s'est laissé conduire par un aveugle, Panks. Mais Doyce, 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 mon pauvre associé !» Il laissa retomber sa tête sur le pupitre. Panks rompit de nouveau le silence et lui fit encore une fois relever la tête en lui disant: « Je ne me suis pas couché, monsieur, depuis que la nouvelle a commencé à se répandre. J'ai couru à droite et à gauche pour voir s'il n'y aurait pas moyen de sauver quelque chose du naufrage. Mais non, tout est perdu, tout a disparu. » Je ne le vois que trop bien, répondit Clennam. M. Panks remplit un intervalle de silence par un gémissement qui venait du fond de son cœur. Quand je pense que pas plus tard qu'hier, reprit Arthur, J'étais bien décidé à vendre, à réaliser et à en finir. Je ne pourrais pas en dire autant, monsieur, mais c'est étonnant combien j'ai rencontré de personnes ce matin qui comptaient réaliser hier, positivement hier, pas demain, pas aujourd'hui, pas un des autres 366 jours de l'année, s'il n'avait pas été trop tard. Ces ronflements de locomotive, qui d'ordinaire produisaient un effet assez comique, semblaient ce jour-là plus tragique que des sanglots, tandis que sa personne, des pieds à la tête, était si sale et si négligée qu'on aurait pu le prendre pour un portrait authentique et ressemblant du malheur dont on ne pouvait pas bien distinguer les traits parce qu'il avait besoin d'être nettoyé. « Monsieur Clennam, est-ce que vous avez risqué tout ?» Il avait eu beaucoup de peine à sauter par-dessus les poings et à prononcer ce dernier mot. « Oui, tout !» Banks saisit ses cheveux touffus et les tira avec tant de force qu'il en arracha encore plusieurs mèches. Après avoir regardé ses dépouilles d'un air furibond, il les mit dans sa poche. « Il faut que je prenne tout de suite mon parti, » ajouta Clennam, essuyant quelques larmes silencieuses qui venaient de déborder. « Il faut que je me hâte au moins d'offrir la seule et triste réparation que je puisse offrir. Il faut que je mette la réputation de mon malheureux associé à l'abri de tout soupçon. Il faut que je me dépouille de tout ce que je possède. Il faut que je remette à nos créanciers la direction dont j'ai tant abusé et que je me résigne à travailler jusqu'à la fin de mes jours pour effacer autant que possible ma faute ou mon crime. N'y a-t-il pas moyen, monsieur, de laisser passer l'orage ? Impossible. Tout est perdu, Pinks. Plutôt je pourrais mettre les affaires de la maison en d'autres mains, mieux cela vaudra. Il y a des engagements à remplir cette semaine qui causeraient une catastrophe d'ici à peu de jours. Quand même, je pourrais me résoudre à la retarder jusque-là en sachant ce que je sais. Toute la nuit, j'y ai réfléchi. Il ne me reste plus qu'à agir. Mais au moins, n'agissez pas seul, reprit Pinks, dont le visage était aussi humide que si toute sa vapeur se transformait en eau dès qu'elle s'échappait. Consultez un homme de loi. Vous avez raison. C'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Prenez Rag. Il n'y a pas grand-chose à faire, il fera aussi bien qu'un autre. Voulez-vous que j'aille chercher Rag, monsieur Clennam? Si cela ne vous dérange pas, je vous serai obligé. Pinks mit son chapeau à l'instant même et partit tout de suite, train direct, grande vitesse, pour Pentonville. Durant son absence, Arthur ne leva pas la tête et conserva la même attitude. Le remorqueur ramena avec lui son ami et conseiller, monsieur Rag, qui, tout le long de la route, avait eu tant de preuves de l'agitation peu rationnelle de M. Pinks que la première chose qu'il fit en arrivant fut de prier ce gentleman de prendre la clé des champs. « Il est à peu près dans l'état où se trouvait ma fille, monsieur, lorsque nous avons intenté un procès pour rupture de promesse de mariage, au nommé Bawkins, remarqua l'homme de loi. Il prend un intérêt trop direct et trop vif à cette affaire. Il se laisse dominer par sa sensibilité. » Il n'y a pas moyen de marcher dans notre profession quand on se laisse dominer par la sensibilité. Tandis qu'il ôtait ses gants et les posait dans son chapeau, il jeta de côté un coup d'œil qui lui révéla tout de suite que son client était bien changé. « Je suis fâché de voir, monsieur, dit l'homme de loi, que vous-même, vous vous laissiez dominer aussi par votre sensibilité. N'en faites rien, je vous prie. Ces pertes sont sans doute très déplorables, monsieur, mais il faut les envisager bravement en face. Si l'argent que j'ai risqué n'avait appartenu qu'à moi seul, monsieur Rugg, soupira Clennam, j'en aurais beaucoup moins de regrets. En vérité, monsieur, fit Rugg, en se frottant les mains d'un air guilleret, vous m'étonnez. Voilà qui est singulier, monsieur. Jusqu'ici, j'ai toujours vu au contraire, dans l'exercice de ma profession, que c'est toujours à son propre argent que l'on tient. J'ai toujours vu des clients, quand ils avaient le malheur de perdre l'argent d'autrui, supporter très bien la chose. Mais là, très bien. Après avoir donné cours à ces remarques consolantes, M. Rugg s'assit sur une chaise de bureau, devant le pupitre. « Maintenant, M. Clennam, si vous voulez bien le permettre, nous allons procéder aux affaires. La question est des plus claires et des plus nettes. Une simple question de bon sens. Qu'est-ce que je peux faire pour vous tirer de ce mauvais pas ? Voilà la question. Ce n'est pas du tout là la question pour moi, monsieur Rack, dit Arthur. Vous vous trompez dès le début. Ma question, la voici. qu'est-ce que je puis faire pour tirer mon associé de ce mauvais pas et réparer de mon mieux le préjudice que je lui cause ?»« Savez-vous, monsieur, répliqua M. Rack d'un ton persuasif, que je commence à craindre que vous ne continuiez à vous laisser dominer par votre sensibilité ?» Je n'aime pas entendre ces mots de réparation, préjudice, monsieur, si ce n'est dans la bouche d'un avocat plaidant contre la partie adverse. Vous me pardonnerez si je crois de mon devoir de vous répéter combien il est dangereux de se laisser dominer par sa sensibilité. Monsieur Rugg, dit Clennam, à qui la résolution bien arrêtée d'exécuter la tâche qu'il s'était imposée parut rendre un peu de courage, et qui étonna son interlocuteur en ayant l'air, malgré son état de prostration, d'avoir une volonté à lui, je crains que vous ne soyez pas disposé à adopter la marche que je suis décidé à suivre. Si votre désapprobation vous empêche de prendre les mesures nécessaires, j'en suis fâché, car il me faudra avoir recours à un autre conseil. Mais je crois devoir vous prévenir, avant d'aller plus loin, qu'il est parfaitement inutile de discuter avec moi là-dessus. « Fort bien, monsieur, » répondit Rack en haussant les épaules. « Fort bien. Puisqu'il faut absolument que quelqu'un se charge de cette besogne, autant vaut que ce soit moi. Tel est le principe d'après lequel j'ai agi dans l'affaire Rack et Borkins. Tel est le principe d'après lequel j'agis presque toujours. » Clennam confia alors à M. Rack la détermination qu'il avait prise. Il lui dit qu'ayant pour associé un homme d'une grande simplicité et d'une grande droiture, il voulait avant tout faire honneur à son caractère et ménager ses sentiments. Il lui expliqua que Daniel Doyce, étant alors absent pour affaires importantes, il se croyait tenu d'accepter publiquement le blâme mérité par son administration imprudente et d'exonérer publiquement son ami de toute responsabilité morale pour que le succès des opérations de son associé ne fût pas compromis par le moindre soupçon de complicité et de négligence dans la gestion des affaires de la maison. Il donna donc à M. Rack la commission de décharger moralement, complètement et publiquement son associé, en déclarant que c'était lui, Arthur Clennam, de la maison Doyce et Clennam, qui avait, de son propre gré, et même contre l'avis de son collègue, risqué les capitaux de l'association dans les spéculations frauduleuses de feu M. Merdle. Il ne pouvait pas offrir d'autres réparations. C'était d'ailleurs la meilleure qu'il put faire accepter à Daniel, dont il connaissait la délicatesse. Et c'est par là qu'il fallait commencer. Il avait l'intention de faire imprimer une déclaration à cet effet, qu'il avait déjà rédigée et qu'il comptait non seulement adresser à tous les clients de la maison, mais encore faire insérer dans les journaux. Outre cette mesure, dont les détails provoquèrent une foule de grimaces chez M. Rack et lui donnèrent des inquiétudes continuelles dans les jambes, il voulait envoyer une circulaire à tous les créanciers pour disculper son associé d'une manière solennelle, leur annoncer que la maison allait être immédiatement fermée jusqu'à ce qu'ils eussent fait connaître leurs intentions, qu'ils se soumettraient d'avance à leur décision. Si, en considération de l'innocence de son associé, on s'arrangeait de façon à permettre à la maison de recommencer honorablement les affaires, il abandonnerait à Daniel Doyce la part qui lui revenait dans l'association comme étant l'unique réparation pécuniaire qu'il put lui offrir en échange des inquiétudes et des pertes dont il avait été pour lui la cause involontaire, et il ne demanderait qu'à servir la maison en qualité de commis à des appointements qui lui permissent seulement de gagner sa vie. Bien que M. Rack vit clairement qu'il serait inutile de s'opposer à ce projet, ses grimaces et l'inquiétude de ses tibias exigeaient avec tant d'instance une protestation pour se soulager qu'il céda à ce besoin. « Je ne veux présenter aucune objection, monsieur, dit-il, aucun argument à l'encontre de votre projet. Je vous aiderai à l'exécuter, monsieur. Mais je proteste néanmoins. » M. Rack énonça dans une argumentation un peu prolixe les principaux motifs de sa protestation. D'abord, la ville entière, pour ne pas dire le pays tout entier, était en proie aux premiers élans de l'indignation causée par la récente découverte, et la colère soulevée contre les victimes ne tarderait pas à éclater avec violence. Ceux qui n'avaient pas été trompés ne pardonneraient pas aux autres d'avoir été moins prudents, tandis que ceux qui s'étaient laissés tromper ne manqueraient pas de trouver par eux-mêmes des excuses et des raisons bien supérieures, selon eux, à celles que leurs compagnons d'infortune pouvait alléguer. Sans compter que chaque victime individuelle s'empresserait de s'indigner à l'idée que, sans les mauvais exemples de toutes les autres victimes, elle n'aurait jamais songé à risquer un sou elle-même. Et puis, une déclaration pareille, en un pareil moment, allait attirer sur Clennam un véritable ouragan de fureur qui ne permettrait pas de compter sur la clémence unanime des créanciers. Il s'exposait tout bonnement à servir de cible solitaire à un feu de fil meurtrier qui se trouverait heureux de le prendre pour point de mire. Arthur répondit à cela que, tout en admettant la justesse de ses observations, il n'y voyait rien qui diminuât ou qui pût diminuer, le moins du monde, la nécessité de la réparation publique et volontaire qu'il voulait offrir à son associé. Il pria donc, une fois pour toutes, M. Ragg de l'aider à prendre immédiatement les mesures nécessaires dans ce but. Sur ce, l'homme de loi se mit à l'œuvre, et Arthur, ne conservant que ses effets, ses livres et le peu d'argent qu'il se trouvait avoir sur lui, mit son compte de banque personnel parmi les autres valeurs de la maison. La déclaration fut publiée et souleva un orage formidable. Des milliers d'individus, depuis la faillite de Myrtle, n'attendaient que cette occasion. Ils ouvraient des yeux effarés dans l'espoir de trouver un être vivant qu'ils pussent accabler de reproches. Aussi, ce cas extraordinaire, qui venait de lui-même rechercher la publicité, mit sur une sorte de pilori la victime vivante dont on avait tant besoin. Lorsque les gens même, que cela ne regardait pas du tout, se montraient si irrités contre le coupable, on ne devrait pas s'attendre à beaucoup d'indulgence de la part de ceux auxquels il faisait perdre de l'argent. M. Ragg, installé dans le bureau de Clennam, décachetait chaque jour un déluge de reproches et d'invectives. Avant qu'il se fût écoulé une semaine, il annonça à son client qu'il craignait que les créanciers n'eussent déjà obtenu contre lui plusieurs décrets de prise de corps. « Il faut que je subisse les conséquences de mes actes, » dit Clennam. « Les recors me trouveront ici. » Le lendemain même, comme il entrait dans la cour du cœur saignant, par le passage au coin duquel se trouvait l'établissement des denrées coloniales de Madame Pleurniche, il fut arrêté par cette dame qui l'attendait sur le seuil de sa boutique et qui l'engagea mystérieusement à pénétrer dans l'heureuse chaumière. Il y trouva M. Ragg. « J'ai cru qu'il valait mieux vous attendre ici. » À votre place, monsieur, je n'irai pas au bureau ce matin. Pourquoi cela, monsieur Ragg? Il y a au moins 5 prises de corps contre vous, à ma connaissance. Eh bien, plus tôt ce sera fini, mieux cela vaudra. Qu'ils me prennent tout de suite. Oui, mais ajouta monsieur Ragg, passant entre Arthur et la porte, entendez donc raison. Ils vous prendront toujours assez tôt, monsieur Clennam, je vous en réponds. Mais enfin, entendez donc raison. Il arrive presque toujours dans ces sortes d'affaires que c'est quelque mauvaise petite créance de rien du tout qui se met en avant et se donne des airs de vouloir arrêter les gens. Or, je sais qu'on a obtenu une contrainte par corps pour une somme insignifiante, un simple mandat du Palace Court. À votre place, je ne me laisserai pas coffrer sur ce mandat-là. Pourquoi pas? J'aimerais mieux me faire prendre pour une des grosses créances, monsieur, répondit l'homme de loi. Pourquoi ne pas sauver les apparences? Comme votre conseiller, je préférerais vous voir arrêté sur un mandat des tribunaux supérieurs, si vous voulez bien m'accorder cette faveur. Cela fait meilleur effet. Monsieur Ragg, répondit Arthur découragé, mon seul désir, c'est d'en finir au plus vite. Je vais continuer ma route, advienne que pourra. Encore un mot, monsieur, s'écria Monsieur Ragg. L'autre question est une affaire de goût. Mais ceci est une question de bon sens. Si on vous arrête pour la petite créance, monsieur, on vous conduira à la prison de la Maréchaussée. Or, vous savez ce que c'est que cette prison. Manque d'air, local étroit et resserré. Tandis que le King's Bench... Monsieur Ragg développa librement sa main droite dans l'air, comme pour indiquer une abondance d'espace. « Je préférerais la prison de la Maréchaussée à tout autre, » répliqua Clennam. « Ah, bah, monsieur !» Ma foi, voilà un drôle de goût. En ce cas, nous ferons aussi bien de nous mettre en route. » L'homme de loi parut un peu blessé au premier moment, mais il ne tarda pas à pardonner à son client une préférence si bizarre. Ils traversèrent la cour du cœur saignant et se dirigèrent vers les ateliers qui se trouvaient à l'autre bout. Les cœurs saignants s'intéressaient plus que jamais à Clennam depuis ses revers. Il pouvait désormais le regarder comme un compatriote, puisque ses malheurs lui donnaient droit de citer parmi eux. Un certain nombre sortaient pour le regarder passer, faisant observer d'un ton onctueux que ce pauvre M. Clennam avait l'air bien abattu. Madame Pleurniche et son père se tenaient en haut des marches, à l'autre bout de la cour, très découragés et secouant la tête. Personne ne semblait guetter l'arrivée du créancier lorsqu'Arthur et M. Ragg arrivèrent au bureau. Mais un membre de quelque congrégation israélite, un vieux juif confit dans le rhum, les suivit de près et se présenta à la porte vitrée avant que l'homme de loi eût eu le temps d'ouvrir une seule lettre. « Oh !» s'écria M. Ragg en levant la tête, « vous pouvez entrer. M. Clennam, je crois que c'est là le gentleman dont je vous parlais tout à l'heure. » Le gentleman en question expliqua le but de sa visite en disant qu'il s'agissait d'une bêtise avère concernant M. Clennam. Et il s'acquitta de sa mission légale. « Voulez-vous que je vous accompagne, M. Clennam ?» demanda Ragg avec beaucoup de politesse en se frottant les mains. « Merci, j'aime mieux aller seul. Ayez seulement la bonté de m'envoyer mes habits. » M. Ragg répondit d'un ton allègre qu'il n'y manquerait pas et donna une poignée de main à son client. Arthur et son garde du corps gagnèrent la rue, montèrent dans le premier fiacre revenu et se dirigèrent vers la grille qu'ils connaissaient si bien. « Dieu me pardonne, » se dit Clennam, « mais je n'aurais jamais cru que je dusse revenir ici comme détenu. » M. Chivery était de garde, et le jeune John se trouvait dans la loge. Soit que son père vînt de le relever de sa faction, ou qu'il attendît son tour pour remplacer son père. Tous deux se montrèrent plus étonnés en reconnaissant le nouveau détenu comme s'il serait attendu de la part d'un guichetier. M. Chivery, père, lui donna une poignée de main d'un air honteux, en lui disant « Voilà la première fois, monsieur, que je ne puis pas dire avec sincérité que j'ai du plaisir à vous voir. » M. Chivery fils fut plus réservé et ne lui donna pas de poignée de main. Il contempla son prisonnier d'un air d'indécision si visible que Clennam, malgré le chagrin qui pesait sur ses yeux et sur son cœur, ne put s'empêcher d'en faire la remarque. Le jeune John ne tarda pas à disparaître dans la cour de la prison. Comme Arthur connaissait assez les us et coutumes de l'endroit pour savoir qu'il devait rester quelque temps dans la loge, il s'assit dans un coin et feignit de lire diverses lettres qu'il tira de sa poche. Cette lecture ne l'occupa pas au point de l'empêcher de remarquer avec reconnaissance que M. Chivery écartait les flâneurs de la loge, faisant signe aux uns, avec un geste de ses clés, de ne pas approcher, invitant les autres à s'éloigner, au moyen de divers coups de coude significatifs, afin de diminuer autant que cela dépendait de lui les ennuis du captif. Arthur était assis, les yeux baissés, rêvant au passé, déplorant le présent, sans s'arrêter ni à l'un ni à l'autre, lorsqu'il sentit une main qui lui touchait l'épaule. C'était le jeune John. « Vous pouvez venir maintenant, » dit-il. Arthur se leva et suivit machinalement son guide. Lorsqu'ils eurent fait quelques pas dans la seconde cour, John se retourna pour ajouter « Il vous faut une chambre. Je vous en ai trouvé une. Je vous remercie bien sincèrement. » John se retourna, franchit le seuil d'une porte que Clennam avait lui-même franchie bien des fois, monta l'escalier et entra dans la vieille chambre. Le prisonnier lui tendit la main. John la regarda, regarda ensuite le détenu, d'un air sombre, le cœur gros, la poitrine suffoquée. « Je ne sais pas si je puis vous donner la main, » dit-il. « Non, je sens que je ne peux pas. Mais, c'est égal, j'ai pensé que vous aimeriez mieux cette chambre-ci qu'une autre, et la voilà. » La surprise que cette conduite bizarre avait inspirée à Clennam fit place, dès que John eut disparu, au sentiment que cette chambre vide devait naturellement éveiller chez lui et aux innombrables associations d'idées qui lui rappelaient la bonne et douce enfant qui avait sanctifié cette misérable demeure. L'absence de la jeune fille, dans un pareil moment, donna à la chambre un aspect si morne et causa à son ancien ami un tel sentiment de désolation qu'il se tourna contre le mur pour pleurer. Soulageant son cœur par des sanglots, « Oh, ma petite Dorite !» Chapitre 27. L'apprentissage de la maréchaussée. Il est midi et la marée-chaussée, sur laquelle le soleil darde de chauds rayons, semble plus tranquille que de coutume. Arthur Clennam, assis dans un vieux fauteuil aussi fané que le plus ancien des détenus, s'abandonne à ses réflexions. Quand un malheureux fait son début dans la prison, le premier changement qui s'opère en lui, c'est une espèce de calme, ou plutôt d'abattement résigné, d'où bientôt il glisse trop souvent, par degrés insensibles, dans la dégradation et la honte. Clennam, dans cet état de paix mensongère, en face de sa honte maintenant consommée, songeait à certaines phases de sa vie passée, comme un mort doit rêver à son existence d'autrefois. Si l'on considère l'endroit où il se trouvait, l'intérêt qui l'avait conduit vers cette prison, alors qu'il était libre de n'y pas entrer, la douce présence de l'image aussi inséparable des barreaux et des murs environnants que des souvenirs impalpables d'une époque plus récente, que nul barreau ne saurait emprisonner, on ne sera pas surpris que la mémoire du prisonnier le ramena à la petite Dorit. Pourtant, il s'en étonnait, non à cause du fait même, mais parce que ce fait lui rappelait toute l'influence salutaire que ce cher petit être avait exercée sur ses bonnes résolutions. Aucun de nous ne sait clairement à quelles personnes, à quels événements nous sommes redevables sous ce rapport, jusqu'au jour où la roue de notre existence, brusquement arrêtée au milieu de sa course affairée, vient nous l'apprendre. Il ne faut pour cela qu'une maladie, un chagrin, la perte de ce que nous aimons, et c'est un des plus grands avantages que nous puissions tirer de l'adversité. Dans son malheur, Clennam en fit l'épreuve tendre et salutaire. La première fois que j'ai commencé à vivre pour mon propre compte, pensa-t-il, que mes yeux fatigués ont entrevu quelque chose qui ressemblait à un but, qui ai-je aperçu devant moi, s'avançant par un sentier pénible, forte de son dévouement, sans recevoir ni encouragement ni éloge, luttant contre d'ignobles obstacles qui auraient effrayé une armée de héros et d'héroïnes de convention? Une faible enfant. Lorsque j'ai essayé de vaincre mon amour déplacé, de me montrer généreux envers un rival plus heureux, bien qu'il ne dût jamais connaître mon sacrifice, ni le récompenser par un seul mot de sympathie, chez qui ai-je pris cette leçon de patience, d'abnégation, d'oubli de moi-même, d'interprétation charitable, de noblesse généreuse dans les affections? Chez cette pauvre enfant. Tout homme que je suis, avec les avantages, les moyens, l'énergie d'un homme, j'aurais peut-être fermé l'oreille au murmure de mon cœur qui me disait que, si mon père avait eu des torts, mon premier devoir était de cacher sa faute et de la réparer. Mais alors, qui m'aurait fait rougir de ma lâcheté? Une faible fille, dont les pauvres petits pieds, mal chaussés, s'usaient presque sur le pavé, dont les pauvres petites mains, si maigres, travaillaient sans relâche, dont le pauvre petit corps mignon était à peine défendu par ses minces vêtements contre le froid, la petite Dorit. C'est ainsi que, seul dans cette triste chambre, il rêvait du fond du vieux fauteuil fané, toujours à la petite Dorit. Il y rêva tant qu'il lui sembla que son malheur présent était une punition de s'être égaré loin d'elle, d'avoir souffert que quelque chose vint se poser entre lui et le souvenir des vertus de sa petite Dorit. La porte de la chambre s'ouvrit, et la tête de M. Chivery père se montra en partie, mais sans se tourner vers Arthur. « Je ne suis plus de garde, M. Clennam, et je vais sortir. Puis-je faire quelques commissions pour vous ?»« Grand merci, non. Vous m'excuserez si j'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas pu me faire entendre. »« Est-ce que vous avez frappé ?»« Mais oui, au moins 5 ou 6 fois. » Arthur, sortant de sa rêverie, remarqua que la prison s'était réveillée de sa sieste, que les détenus promenaient leur désœuvrement à l'ombre, dans la cour, et qu'il devait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. « Vos effets sont arrivés, » reprit M. Chivery aîné, « et mon fils va les monter. Je vous les aurais déjà envoyés, mais il tenait absolument à vous les monter lui-même. C'est ce qui m'en a empêché. Monsieur Clennam, puis-je vous dire un mot ?»« Donnez-vous la peine d'entrer, » répondit Arthur. Car M. Chivery tenait toujours la tête presque tout entière en dehors de la porte, et au lieu de fixer ses 2 yeux sur le prisonnier, il se contentait discrètement de lui prêter une oreille. Et pourtant, personne n'avait appris à M. Chivery cette délicatesse d'instinct, cette exquise politesse, tant il est rare qu'on peut avoir la tournure d'un guichetier avec le cœur d'un gentleman. « Merci, monsieur, » répliqua M. Chivery, qui ne bougea pas, « ce n'est pas la peine. Monsieur Clennam, si c'était un effet de votre complaisance, ne faites pas attention à mon fils dans le cas où vous le trouveriez un peu mauvaise tête. Mon fils a du cœur et bien placé, j'ose le dire. Moi et sa mère, nous savons bien qu'il n'en manque pas, et nous le trouvons toujours au bon endroit. » Après avoir prononcé ce discours mystérieux, le guichetier retira son oreille et ferma la porte. Il n'y avait guère plus de 10 minutes qu'il était parti lorsque le fils se montra. « Voilà votre valise, » dit-il à Clennam, en la posant à terre avec beaucoup de soin. « C'est très obligeant de votre part. Je suis honteux de vous donner tant de peine. » Le jeune John était reparti sans entendre la fin de cette phrase, mais il ne tarda pas à remonter, disant, comme la première fois, « Voilà votre malle noire. » Il déposa cette malle dans un coin avec le même soin que la valise. « Je vous suis très reconnaissant de cette attention. J'espère que nous pouvons à présent nous donner une poignée de main, monsieur John. » « Mais point du tout. » John se recula, emprisonna son poignet droit dans un cercle formé par le pouce et l'index de sa main gauche, et répondit, ainsi qu'il avait déjà fait, « Ma foi, je ne sais pas si je le puis. Non, je sens que je ne peux pas. » Et il se mit à regarder le prisonnier d'un air irrité, quoique le gonflement de ses paupières humides annonça plutôt encore la commisération. « Pourquoi donc, » dit Clennam, « vous montrez à la fois si mal disposé pour moi et cependant empressé de me rendre service ?»« Il y a quelque malentendu là-dessous. Si j'ai fait quelque chose qui ait pu vous être désagréable, j'en suis bien fâché. » « Non, monsieur, » répliqua John, agitant son poignet captif, dans le cercle volontaire où il le tenait emprisonné, « il n'y a pas le moindre malentendu dans les sentiments avec lesquels je vous contemple en ce moment. Si j'avais seulement votre taille, monsieur Clennam, par malheur je suis loin de l'avoir, si d'ailleurs vous n'étiez pas si abattu et que ce ne fût pas contraire à tous les règlements, ce sentiment que j'éprouve pour vous me porterait plus volontiers à vous proposer une partie de boxe pour le moment que toute autre chose. » Arthur le regarda un instant d'un air surpris, où il entrait un peu de colère. « Allons, allons, » dit-il, « c'est un malentendu. » Puis il se détourna pour aller se rasseoir dans le fauteuil fané. Le jeune John le suivit des yeux et, au bout de quelques minutes, s'écria, « Je vous demande pardon. »« Accordé de tout mon cœur, » répliqua Clennam agitant la main sans relever la tête courbée sur sa poitrine. « N'en parlons plus, ce n'est pas la peine. » « Ce mobilier, continua John d'une voix très radoucie, m'appartient. Je le loue d'habitude aux personnes qui prennent cette chambre sans apporter de meubles. Il ne vaut pas grand-chose, mais il est à votre service. Pour rien, bien entendu. Je ne voudrais pas pour tout au monde que ce fût à d'autres conditions. Mais je le mets très volontiers à votre disposition pour rien. » Arthur releva la tête pour le remercier, et pour lui dire qu'il ne pourrait pas accepter cette faveur. John continuait à faire tourner son poignet avec le même air d'indécision. « Qu'y a-t-il donc entre nous ?» demanda le prisonnier. « Je ne vous le dirai pas, » répliqua le jeune guichetier, élevant tout à coup la voix et redevenant acerbe. « Il n'y a rien du tout. » Arthur le regarda encore une fois, attendant en vain l'explication de cette étrange conduite. Il ne tarda pas à détourner encore une fois la tête. Au bout de quelques minutes, John reprit avec une douceur extrême. « La petite table ronde qui se trouve à votre coude appartenait autrefois à... Mais vous savez à qui, monsieur, sans que je vous le dise. Il est devenu un grand personnage avant de mourir. Je l'ai racheté à un individu qui a habité cette chambre après lui, mais qui ne le valait sous aucun rapport. Du reste, il n'aurait pas été facile de trouver... beaucoup d'individus de sa distinction. » Arthur rapprocha un peu la table, posa la main dessus et se tint dans cette attitude. « Peut-être ignorez-vous, monsieur, poursuivit le porte-clés, que j'ai pris la liberté d'aller le voir lorsqu'il est revenu à Londres pour quelques jours. À dire vrai, il a regardé cette démarche comme une liberté de ma part, bien qu'il ait eu l'obligeance de m'engager à m'asseoir et de me demander des nouvelles de mon père et de tous les anciens amis. Je veux dire des humbles connaissances d'autrefois. Je l'ai trouvé bien changé, et je l'ai dit en revenant ici. Je lui ai demandé si Mademoiselle Aimée allait bien. Et allait-elle bien? Il me semble que vous ne devez pas avoir besoin d'adresser cette question-là à un pauvre diable comme moi, répondit John, qui avait l'air d'avaler difficilement une grosse pilule invisible. Mais puisque vous me l'adressez, je suis fâché de ne pouvoir y répondre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il regarda encore cette question comme une liberté de ma part et me demanda en quoi cela me concernait. À partir de ce moment, je vis bien que j'étais importun, comme je m'en étais un peu douté d'abord. Malgré ça, il me parla ensuite avec assez de bonté, avec beaucoup de bonté. Ils gardèrent tous les deux le silence pendant plusieurs minutes. Seulement John répéta dans l'intervalle « Certainement, il m'a ensuite montré beaucoup de bonté. » Ce fut encore au tour du guichetier à renouer la conversation. « Si ce n'est pas une indiscrétion, reprit-il, pourrait-on vous demander combien de temps vous comptez rester sans boire ni manger ?»«
Je n'ai eu besoin de rien jusqu'à présent, répliqua Clennam. Je n'ai pas d'appétit pour le moment. »
« Raison de plus pour vous restaurer, reprit John. Il ne faut pas rester là dans votre fauteuil pendant toute la journée sans rien prendre, parce que vous n'avez pas d'appétit. Au contraire, il faut manger quelque chose pour vous donner de l'appétit. Je vais prendre le thé dans ma chambre. Si ce n'est pas une trop grande liberté de ma part de vous faire cette offre, venez en prendre une tasse avec moi. Ou, si vous l'aimez mieux, je pourrai vous descendre ici le plateau en 2 minutes. » Convaincu que John se donnerait cette peine s'il refusait, désireux aussi de prouver qu'il n'avait oublié ni la prière de M. Chivery père, ni les excuses de M. Chivery fils, Arthur se leva en déclarant qu'il prendrait volontiers une tasse de thé chez l'ami John. Celui-ci referma la porte pour en épargner la peine au détenu, dans la poche duquel il glissa adroitement la clé, puis il prit les devants pour lui montrer le chemin de sa propre résidence. Il demeurait tout en haut du bâtiment, le plus rapproché du greffe. C'était la chambre où Arthur était monté en courant le jour où la famille, récemment enrichie, quittait pour toujours la prison et où il avait trouvé la petite Dorrit étendue à terre sans connaissance. Dès qu'il eut mis le pied sur la première marche de l'escalier, il devina où John le conduisait. La chambre n'était pas tout à fait dans le même état. On lui avait donné un coup de badigeon et on l'avait tendue d'un papier neuf. Elle renfermait aussi un mobilier plus confortable. Mais Clennam put aisément se la rappeler, tel qu'un rapide coup d'œil la lui avait montré, tandis qu'il prenait la jeune fille dans ses bras pour la porter jusqu'à la voiture. John, en se mordant les doigts, fixait sur son convive un regard scrutateur. « Je vois que vous connaissez cette chambre, monsieur Clennam. »«
Oui, oui, je me la rappelle. Dieu bénisse la chère enfant. »
John oubliait le thé pour continuer à se mordre les doigts et à regarder son invité jusqu'à ce que celui-ci eût cessé d'examiner la chambre. Puis il fit un bond vers la théière, y versa impétueusement tout le souchon qu'il avait dans sa boîte et s'éloigna pour la remplir d'eau bouillante à la cuisine commune. La chambre parlait à Clennam dans un langage si éloquent, au milieu du changement de circonstances qui le ramenait dans cette misérable prison. Elle lui parlait si tristement de la petite Dorrit qu'il avait perdue, qu'il aurait eu beaucoup de peine à ne pas céder à son émotion, quand même il n'eût pas été seul. Mais, seul comme il était, il n'essaya même pas. Il posa la main sur le mur insensible avec autant de tendresse que s'il eût touché la jeune fille elle-même et prononça son nom à voix basse. Il se mit à la croisée et, regardant par-dessus le parapet de la prison et sa lugubre couronne de fer, il envoya, à travers le brouillard d'une chaude journée d'été, une bénédiction vers le pays lointain où la petite Dorrit vivait heureuse et riche. John fut absent quelque temps, et lorsqu'il revint, il était facile de voir qu'il était allé dehors, car il apportait du beurre frais enveloppé dans une feuille de chou, quelques tranches de jambon dans une feuille de chou jumelle, puis un petit panier de cresson et de salade. Lorsqu'il eut arrangé ses comestibles sur la table dans un ordre symétrique, les deux convives s'assirent pour prendre le thé. Clennam essaya de faire honneur au repas, mais en vain. Le jambon lui donnait des nausées,
Le pain semblait se transformer en sable dans sa bouche. Il eut beau faire tout son possible pour se forcer à manger. Tout ce qu'il put faire, ce fut de prendre une tasse de thé. « Prenez un peu de salade, » dit John en présentant le panier à son invité. Arthur prit un brin ou deux de cresson et essaya de manger. Mais le pain sembla se transformer en sable plus lourd qu'auparavant, et le jambon, bien que d'excellente qualité, lui parut répandre une odeur de charcuterie insupportable dans toute la prison. « Encore un peu de salade, monsieur, » répéta John, qui avança de nouveau le panier. Le jeune guichetier avait tellement l'air de passer à un pauvre oiseau quelques brins de verdure par les barreaux de sa cage pour recréer sa triste solitude, et il était si facile de deviner qu'il avait acheté le petit panier dans l'intention d'offrir au prisonnier une poignée de fraîcheur pour lui faire oublier les briques et les pavés brûlants de la geôle, que Clennam ne put s'empêcher de lui dire en souriant « C'est bien aimable à vous d'avoir songé à me faire passer cette verdure à travers les barreaux de ma cage, mais aujourd'hui je ne puis pas même prendre cela. » Comme si le manque d'appétit eût été une maladie contagieuse, John ne tarda pas à repousser aussi son assiette et se mit à plier la feuille de chou qui avait servi d'enveloppe au morceau de jambon. Lorsqu'il l'eut pliée et repliée de façon à en faire un petit in 18 qui pouvait tenir dans le creux de sa main, il commença à l'aplatir en fixant sur Clennam un regard scrutateur. « Il me semble, » dit-il enfin, pressant son in 18 entre ses mains avec vigueur, « que, si vous ne jugez pas à propos de vous soigner dans votre propre intérêt, vous pourriez au moins vous soigner dans l'intérêt d'une autre personne. » « En vérité, » répondit Arthur avec un soupir et un sourire, « je ne vois pas pour qui je me soignerais. » « Monsieur Clennam, » fit John avec vivacité, « je m'étonne qu'un gentleman, capable d'être aussi franc que vous l'êtes, soit capable de me faire une réponse si peu sincère. »« Oui, monsieur Clennam, je suis surpris qu'un individu capable d'avoir un cœur comme le vôtre ait le cœur de traiter le mien de la sorte. »« Cela m'étonne, monsieur. » « Ma parole d'honneur, cela me surprend. » John, qui s'était levé afin de donner plus de force à ses dernières paroles, se rassit et commença à rouler son in 18 sur sa jambe droite, sans jamais quitter des yeux Clennam, qu'il contemplait d'un air d'indignation et de reproche. « Je l'avais surmonté, monsieur, » continua-t-il, « je l'avais vaincu, cette passion, sachant qu'il fallait la vaincre. J'étais décidé à n'y plus songer. C'est ce que j'aurais fait, j'espère, » si, dans cette prison, on ne vous avait pas amené, et dans une heure malencontreuse pour moi, aujourd'hui même, dans son agitation, John adoptait la phraséologie élégante de sa mère. Lorsque vous vous êtes dressé devant moi, monsieur, dans la loge, ce matin même, plutôt comme un upas empoisonné que comme un simple insolvable, il s'est élevé en moi un tel flot de sentiments tumultueux qu'au premier abord, il a tout entraîné devant lui, et que je me suis senti emporté dans le tourbillon. Enfin, j'ai réussi à en sortir. Oui, quand ce devrait être une condamnation, je soutiendrai toujours que contre ce tourbillon de toutes mes forces j'ai lutté. Et que j'en suis sorti. Je me suis dit que si je m'étais montré grossier avec vous, je vous devais des excuses, et ces excuses, sans crainte de me dégrader, je vous les ai offertes. Et maintenant, au moment même, où je désirais tant vous prouver qu'il existe un souvenir presque sacré pour moi, et que je prise par-dessus tout, vous venez par-dessus le marché me mortifier lorsque j'y fais l'allusion la plus détournée et la plus innocente. Car vous ne pouvez pas nier, monsieur, vous n'aurez pas la bassesse de nier que vous m'avez mortifié. » Dans son étonnement, Arthur ne put couvrir de grands yeux et demander « De quoi donc s'agit-il? Que voulez-vous dire, John ?» Mais John, se trouvant dans cette situation d'esprit où certaines gens semblent incapables de donner une réponse directe, continua étourdiment. « Je n'avais pas, » déclara-t-il, « je n'avais pas, et je n'ai jamais eu, l'audace de conserver le moindre espoir. Je n'ai jamais pensé, non, jamais. Et pourquoi ne le dirais-je pas, si je l'avais pensé, que je puisse être heureux, après les paroles que nous avons échangées, quand même il ne se serait pas élevé depuis, des barrières insurmontables. Mais cela vous donne-t-il le droit de supposer que j'ai perdu la mémoire, que je ne pense plus, que je n'ai pas d'endroit sensible, que je n'ai plus rien de rien ?»«
Que voulez-vous dire ?» s'écria Clennam.
« Oui, oui, on peut fouler tout cela aux pieds, monsieur, » poursuivit John, s'élançant au galop, comme un cheval échappé, dans une véritable prairie sauvage de paroles tumultueuses, si on a le courage de commettre une pareille bassesse. On peut fouler aux pieds mes sentiments, mais cela ne m'empêche pas de les avoir. Vous ne pourriez même pas les fouler aux pieds si je ne les avais pas. Mais il n'en est pas moins indigne d'un gentleman, il n'en est pas moins déshonorant pour lui, de venir, par ses paroles amères, refouler un individu dans sa coque lorsqu'il lutte pour en sortir comme un ver à soie. Le monde peut se moquer d'un porte-clés, mais un porte-clés est un homme, après tout, excepté quand c'est une femme, comme cela se voit dans certaines prisons réservées au beau sexe. Quelque ridicule que fût l'incohérence de ce discours, il y avait néanmoins tant de sincérité dans la simple et sentimentale nature de John, son visage brûlant, l'agitation de sa voix et de ses manières indiquaient si clairement qu'il se sentait froissé, qu'il aurait été cruel de ne pas y être sensible. Tandis qu'Arthur cherchait à remonter à la source de la mystérieuse insulte dont il s'était rendu coupable sans le savoir, John, après avoir fermé un rouleau passablement symétrique avec sa feuille de chou, la coupa en trois et la posa proprement sur une assiette, comme si c'eût été quelque rareté gastronomique. « Mais, au fait, ne serait-il pas possible, dit Arthur, après s'être rappelé leur conversation depuis l'offre du cresson, que vous fissiez là quelque allusion à Mademoiselle Dorrit ?»« Ah, vous demandez si c'est possible, monsieur, » répliqua John Chivery.
« Mais c'est que je ne comprends pas cette allusion. Je voudrais bien ne pas avoir le malheur de vous laisser croire que mon intention est de vous offenser. Car je ne l'ai jamais eue, et cependant, je suis obligé de vous répéter que je ne vous comprends pas.
« Monsieur, riposta John, aurez-vous bien la perfidie de soutenir que vous ne connaissez pas, depuis longtemps, ce que j'éprouve à l'endroit de Mademoiselle Dorrit ? Une passion, vous le savez, qui mérite moins le nom ambitieux d'amour que celui d'une humble adoration et d'un sacrifice dévoué.
John, je ne commettrai jamais sciemment un acte de perfidie, pas plus celui-là qu'un autre, et je ne devine pas pourquoi vous m'en croyez capable. Madame Chivery, votre mère, ne vous a-t-elle jamais dit que j'étais allé la voir ?
Non, monsieur, répondit John d'un ton sec, elle ne m'a jamais parlé de ça.
Cependant, j'y suis allé, devinez-vous pourquoi ?
« Non, monsieur, » répéta John, sans changer d'intonation, « je ne devine pas. »«
Alors, je vais vous le dire. Je désirais assurer le bonheur de Mademoiselle Dorrit, et si j'avais pu croire qu'elle partageât vos sentiments, le pauvre John devint pourpre jusqu'au bout des oreilles.
« Mademoiselle Dorrit ne les a jamais partagés, monsieur, » interrompit-il. « À mon humble façon, je veux me montrer aussi franc et aussi honorable que possible, et je me mépriserai si j'étais capable de mentir en vous disant le contraire. Non, elle ne m'a jamais donné à entendre qu'elle pourrait m'aimer, et dans un moment de sang-froid, je n'ai même point espéré qu'elle le fît jamais. Elle était bien au-dessus de moi sous tous les rapports. Et d'ailleurs, ajouta John, sa famille distinguée était supérieure à la mienne. Le sentiment chevaleresque de John pour la petite Dorrit et pour tout ce qui lui appartenait le rendait si respectable, en dépit de sa petite taille, de ses jambes grêles, de sa chevelure d'un blond filasse et de son tempérament poétique, qu'un Goliath aurait pu prendre sa place sans inspirer autant de considération à Arthur.
« Vous parlez comme un homme, John, » dit-il d'un ton de sincère admiration.
« Eh bien, monsieur, tâchez de faire comme moi. Voilà tout ce que je vous demande, » répliqua John, passant la main sur ses yeux.
Il avait mis tant de vivacité et d'aigreur dans cette riposte qu'Arthur le contempla encore une fois d'un air surpris. Toutefois, ajouta John, tendant la main à son hôte par-dessus la table, l'expression est trop forte, je la retire. Mais pourquoi donc aussi, pourquoi, lorsque je vous dis, monsieur Clennam, soignez-vous dans l'intérêt de quelqu'un que vous savez, pourquoi ne pas user de franchise, même envers un porte-clés ? Si je vous ai donné la chambre qui devait vous plaire le mieux, si je vous ai monté vos malles, non que je les ai trouvées lourdes, pas du tout, je n'en aurais pas parlé sans cela. Si je vous ai cultivé comme je l'ai fait depuis ce matin, croyez-vous que ce soit pour vos propres mérites ? Non, ils sont très grands, je n'en doute pas le moins du monde.
mais ce n'est pas pour eux que je l'ai fait. Les mérites d'une autre personne sont plus grands encore. Ce sont eux qui ont eu tant d'influence sur moi. Pourquoi donc ne pas me parler franchement à votre tour ?»«
Eh bien, franchement, John, vous êtes un si bon garçon, et votre caractère m'inspire un respect si sincère que je me reproche de n'avoir pas deviné qu'il fallait attribuer à la confiance que m'a témoignée Mademoiselle Dorrit les bons services que vous m'avez rendus aujourd'hui. J'avoue mon tort et je vous prie de me le pardonner. »
« Oh, pourquoi ? » répéta John avec le même dédain qu'auparavant. « Pourquoi si peu de franchise ? » ?»«
Je vous assure que je ne vous comprends pas. Regardez-moi. Songez au chagrin que j'ai éprouvé. Est-il probable que j'ajouterai sciemment aux autres reproches que je m'adresse celui de m'être montré ingrat ou traître envers vous ? Je ne vous comprends pas. »
Le visage incrédule de John s'adoucit peu à peu et n'exprima plus que le doute. Il se leva, marcha à reculons vers la fenêtre mansardée, fit signe à Clennam de s'avancer jusque-là et le contempla d'un air rêveur en disant « Monsieur Clennam, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas. »
« Que je ne sais pas quoi, John. »«
Miséricorde !» s'écria John, qui parut en appeler aux pointes de fer qui couronnaient le mur de la prison. « Il me demande quoi ?»
Clennam regarda les pointes de fer, puis il regarda John. Il recommença deux fois le même exercice, sans en être plus avancé.
« Il le demande. Et qui plus est ?» s'écria le jeune guichetier, qui regarda Clennam des pieds à la tête, d'un air d'embarras pénible. « Ne dirait-on pas qu'il ne sait vraiment rien ?
Voyez-vous cette croisée, monsieur ?
Certainement, je la vois.
Vous voyez cette chambre ? Sans aucun doute.
Le mur d'en face et cette petite cour ?
Eh bien, tout cela en a été témoin du soir jusqu'au matin, et du matin jusqu'au soir, pendant des semaines, pendant des mois. Combien de fois n'ai-je pas vu Mademoiselle Dorrit accoudée à cette fenêtre, sans savoir que je la voyais ?
Témoin de quoi ?
De l'amour de Mademoiselle Dorrit.
De son amour ? Pour qui donc ?
Pour vous, répondit John, qui posa le revers de sa main sur la poitrine d'Arthur, recula vers sa chaise et s'assit, le visage pâle, les deux mains sur les bras du fauteuil, en secouant la tête. S'il eût porté à Clennam un grand coup de poing, au lieu de se contenter de le toucher doucement comme il l'avait fait, la commotion n'eût pas été plus violente. Arthur demeura immobile de surprise, les yeux fixés sur John, les lèvres entr'ouvertes, sur lesquelles semblait s'agiter le mot « moi ». Mais sans qu'il eût la force de le prononcer. Il se tint ainsi les bras ballants, comme un homme qui se réveille en sursaut, pour apprendre une nouvelle qu'il ne comprend pas bien encore.
« Moi ? » dit-il enfin tout haut.
« Ah ! » dit en gémissant le porte-clés, « vous !»
Arthur essaya de sourire en répondant
« Vous avez rêvé cela, John. Vous vous trompez. »«
Moi, me tromper ? » s'écria John.
« Moi ? Non, non, monsieur Clennam, ne dites pas cela. Sur toute autre chose, c'est possible, car je n'ai pas la prétention d'être un profond observateur et je sais bien ce qui me manque.
Mais me tromper, moi ? Sur une chose qui m'a plus ravagé le cœur que toute une cargaison de flèches sauvages, moi, me tromper sur un point qui m'a conduit à deux doigts de la tombe, et quelquefois je voudrais qu'elle m'y eût conduit tout à fait, si la tombe n'était pas incompatible avec le débit de tabac et les sentiments de ceux à qui je dois le jour. Moi, me tromper sur une découverte qui, même en ce moment, m'oblige à tirer mon mouchoir de ma poche, ni plus ni moins qu'une grande fille, comme on dit, et pourtant, je ne vois pas pourquoi le titre de « grande fille » serait un terme de reproche, puisque tout cœur masculin bien constitué doit les aimer, qu'elles soient grandes ou petites. Ne me dites pas cela, ne me dites pas cela. » Toujours respectable au fond, tout absurde qu'il parut à la surface, John tira en effet son mouchoir, avec cette absence sincère d'affectation et de cachotterie qu'on ne rencontre que chez un homme d'un bon naturel lorsqu'il exhibe son mouchoir pour s'essuyer les yeux. Après les avoir essuyés et s'être permis le luxe innocent d'un sanglot et d'un reniflement, il le remit dans sa poche. La main que John avait posée sur la poitrine d'Arthur lui avait tellement laissé là la sensation d'un coup de poing qu'il ne pouvait encore trouver rien à dire pour terminer l'entretien. Lorsque le guichetier eut remis son mouchoir dans sa poche, Arthur lui répéta qu'il admirait son désintéressement et sa fidélité affectueuse. Quant à l'impression dont il venait de soulager son esprit, Ici, John l'interrompit en disant, non pas une impression, une certitude. Quant à cela, il pourrait en causer plus tard, mais pour le moment, il s'abstiendrait, lui, d'en dire davantage. Il se sentait triste et fatigué. Il allait rentrer chez lui, avec la permission de John, et se retirer pour la nuit. Le porte-clés n'y fit aucune opposition, et Clennam se traîna à l'ombre du mur jusqu'à sa chambre. La sensation du coup qu'il venait de recevoir en pleine poitrine était encore si pénible que, dès qu'il fut débarrassé de la présence d'une vieille femme de journée très sale qu'il trouva assise sur les marches, où elle attendait pour faire le lit du nouveau détenu, et qui lui donna à entendre qu'elle obéissait en cela aux ordres de M. Chivery, pas l'ancien, mais son fils, il se jeta dans le vieux fauteuil fané, se tenant la tête à deux mains, comme s'il se sentait étourdi. L'amour de la petite Dorrit, cela lui causait plus de trouble que toutes ses autres peines, beaucoup plus. La chose semblait si improbable. L'avait-il jamais appelée autrement que son enfant, sa chère enfant? N'avait-il pas toujours cherché à gagner sa confiance en appuyant sur la différence de leurs âges respectifs et en ne parlant de lui-même que comme d'un homme qui commence à se faire vieux? Pourtant, qui sait? Elle ne l'avait peut-être pas trouvé si vieux qu'il voulait le paraître. Lui-même, il se rappelait bien qu'il n'avait commencé à se croire vieux que le jour où la rivière avait emporté le bouquet de roses. Il avait les deux lettres de la petite Dorrit dans une boîte qui renfermait d'autres papiers. Il les prit et les relut. Il lui sembla, en les lisant, entendre la douce voix de celle qui les avait écrites. Elles résonnèrent à son oreille avec des inflexions pleines de tendresse auxquelles il n'était pas impossible de donner, en effet, un nouveau sens. Ce fut alors que le calme désespoir de la réponse « Non, non, non » qu'elle lui avait faite un soir dans cette même chambre, cette nuit où Pinks lui avait laissé entrevoir l'aube d'un changement de fortune de la famille Dorrit, et où il avait échangé avec elle d'autres paroles qu'il devait se rappeler plus tard dans son humiliation et sa captivité, lui revinrent à l'esprit. Mais encore une fois, la chose paraissait si improbable. En y réfléchissant pourtant, elle le parut moins. Puis il se livra à une autre enquête assez bizarre sur l'état de son propre cœur. Dans sa répugnance à croire qu'il aimât quelqu'un, dans son désir d'éclaircir cette question, dans sa conviction qu'il y avait une sorte de générosité de sa part à protéger l'amour qu'elle aurait pu éprouver pour un autre, dans tout cela, n'y avait-il pas un sentiment auquel il avait imposé silence chaque fois qu'il allait éclater? Ne s'était-il pas toujours dit qu'il ne devait jamais songer à être aimé d'elle, qu'il ne devait pas tirer avantage de sa reconnaissance, qu'il devait se rappeler son expérience passée afin d'éviter un nouveau danger, qu'il devait regarder toutes ses espérances juvéniles comme des illusions du passé, aussi mortes pour lui que l'était la sœur de Chéri, qu'il devait se tenir sur ses gardes en se répétant que le temps des amours était passé pour lui, triste et vieux qu'il était maintenant? Il l'avait embrassée lorsqu'il l'avait trouvée évanouie et qu'il l'avait descendue dans ses bras le jour où elle avait été oubliée par sa famille avec une négligence si expressive. Eh bien, l'avait-il embrassée tout à fait de la même manière que si elle eût été réveillée? N'y avait-il pas du tout de différence? L'obscurité le trouva rêvant encore à toutes ses pensées. L'obscurité trouva aussi M. et Mme Pleurniche frappant à sa porte. Ils apportaient avec eux un panier garni d'une collection choisie de ces denrées que les cœurs saignants mettaient tant d'empressement à acheter et tant de lenteur à payer. Mme Pleurniche pleurait. M. Pleurniche grommela dans son style philosophique mais peu clair qu'il y a des hauts, vous savez, et puis aussi des bas. Il était parfaitement inutile de demander pourquoi il y a des hauts et des bas. Ils existent, voilà tout. Il avait entendu affirmer qu'à mesure que la terre tourne, car on sait qu'elle tourne, le meilleur gentleman du monde doit naturellement se trouver de temps en temps sans dessus dessous, la tête en bas et les cheveux tout ébouriffés, comme les autres, dans ce qu'on peut nommer l'espèce. Eh bien alors, tant mieux. C'était là l'opinion de M. Pleurniche. Tant mieux. Car à la première révolution de la Terre, la tête de ce même gentleman reprendrait sa position naturelle et ses cheveux aussi, qui redeviendraient si lisses que cela ferait plaisir à voir. Eh bien alors, tant mieux. On a déjà vu que Mme Pleurniche n'était pas douée d'un esprit philosophique. Elle ne savait que pleurer, mais pour être moins philosophique, ses larmes n'en étaient pas moins intelligibles. Cela tenait-il à sa douleur si sympathique, à l'esprit naturel de son sexe, à l'association des idées plus rapides chez les femmes, ou plutôt à ce qu'elles n'ont point du tout de ces associations d'idées? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles ne pouvaient pas être plus intelligibles. Vous auriez de la peine à me croire, monsieur Clennam, si je vous répétais tout ce que père a dit à propos de vous, commença madame Pleurniche. Il en est presque malade. Quant à sa voix, depuis votre malheur, il n'en a plus du tout. Vous savez qu'il chante à ravir. Eh bien, cet après-midi, il n'a pas tant seulement pu gazouiller 3 notes pour les enfants. Vous me croirez si vous voulez, mais c'est la pure vérité. Tout en parlant, madame Pleurniche secoua la tête, s'essuya les yeux et jeta autour d'elle sur la chambre un coup d'œil rétrospectif. « Pour ce qui est de M. Baptiste, continua madame Pleurniche, je ne peux pas me figurer, et encore moins m'imaginer, ce qu'il va devenir en apprenant la nouvelle. Il y a longtemps qu'il serait ici, bien sûr, s'il n'avait pas été absent depuis ce matin pour l'affaire confidentielle dont vous l'avez chargé. Le zèle avec lequel il s'occupe de cette affaire, sans prendre un moment de repos, est bien fait, comme je le lui ai dit, ajouta madame Pleurniche, terminant son discours en italien, pura et tuna una padrona. Et bien que madame Pleurniche ne fût pas vaniteuse, elle ne se cacha pas qu'elle avait tourné cette phrase de Toscane avec une élégance particulière. Mais ce que je dis, monsieur Clennam, continua la digne femme, c'est qu'à tous les malheurs, on peut toujours trouver un bon côté. Vous savez ça aussi bien que moi. Quand on regarde autour de cette chambre, il est facile de deviner quel est le bon côté du malheur d'aujourd'hui. Il faut remercier le ciel de ce que mademoiselle Dorit n'est plus ici pour voir cela. Arthur crut reconnaître que madame Pleurniche le regardait avec une expression toute particulière. « C'est une chose dont il faut remercier le ciel, » répéta madame Pleurniche, « que mademoiselle Dorit soit bien loin. Espérons que cela l'empêchera d'apprendre la nouvelle. Si elle avait été ici, monsieur, il n'est pas douteux qu'en vous voyant, vous, dans le malheur et la peine, son bon cœur en eût trop souffert. Je suis sûr qu'il n'y a rien au monde qui pût lui faire autant de peine. » On ne pouvait pas s'y tromper cette fois. Madame Pleurniche regardait Arthur bien en face, et il y avait un certain air de malice dans son émotion affectueuse. « Oui, reprit-elle, et voyez un peu comme père, malgré son âge, remarque tout ce qui se passe autour de lui. Il m'a dit, pas plus tard que ce soir, que l'heureuse chaumière me démente si j'ajoute un mot à l'exacte vérité, il m'a dit, Marie, quel bonheur que Miss Dorit ne soit pas ici pour voir ça. Je réponds alors à père, que je lui réponds, père, vous avez raison. Voilà, continua madame Pleurniche, de l'air d'un témoin qui se pique d'avoir fait en justice une déposition irréprochable, voilà ce qui s'est passé entre père et moi. Voilà la vérité et rien que la vérité. Monsieur Pleurniche, étant d'un tempérament plus laconique, saisit cette occasion pour remarquer qu'il était temps de laisser M. Clennam à lui-même. « Car, vois-tu, ajouta-t-il gravement, je sais ce que c'est, ma vieille. » Il répéta plusieurs fois cette précieuse observation, comme si elle lui eût paru renfermer un grand précepte moral, et le digne couple s'éloigna bras-dessus, bras-dessous. « petite Dorit, encore pendant des heures entières, et toujours la petite Dorit. » Heureusement que lors même qu'il y aurait jamais eu quelque chose de vrai dans l'histoire de cet amour, ce n'était plus que de l'histoire ancienne. C'était fini, bien fini, et tant mieux. Si, en effet, elle l'avait aimé, et qu'il l'eût su, et qu'il se fût laissé aimer, quel chemin que celui qu'il aurait fait prendre à la chère enfant! Le chemin qui devait la ramener à cette misérable prison. Il devait se consoler en songeant qu'elle ne risquait plus d'y revenir. Qu'elle était, ou serait bientôt mariée, quelques vagues rumeurs des intentions de l'ex-doyen à cet égard avaient circulé dans la cour du cœur saignant à l'époque du mariage de Fanny, et que la grille de la prison était à jamais fermée maintenant au retour des éventualités embrouillées d'un temps désormais écoulé. Chère petite Dorit, lorsqu'Arthur jetait un regard en arrière sur la triste histoire de sa propre vie, la petite Dorit lui apparaissait toujours à l'horizon. Tout aboutissait à cette innocente image. Il la retrouvait au bout des milliers de lieues qu'il avait faites à son retour. C'est elle qui avait calmé ses inquiétudes et ses doutes autrefois. Elle était le centre de tout l'intérêt de son existence, l'âme de tout le bonheur que la vie avait pu lui donner encore. Sans elle, que trouvait-il au-dedans de lui-même et dans ses souvenirs? Rien que désolation et ténèbres. Aussi mal à l'aise que la première fois qu'il avait couché entre ces sombres murs, il passa la nuit à tourner toutes ses pensées dans son esprit. Pendant ce temps-là, M. Chivery fils dormait au contraire d'un sommeil paisible, après avoir composé et disposé sur son oreiller l'épitaphe que voici. Passant, respecte la tombe de John Chivery Jr., mort à un âge très avancé qu'il est inutile de spécifier. Il rencontra un rival courbé sous le poids du malheur et se sentit tout disposé à lui proposer un duel à coups de poing. Il sut vaincre ses sentiments amers et se montra magnanime.